par rapport à la vie de labo, des fois, faut savoir se décadrer un petit peu parce qu'on reste toujours dans cette optique. En restant toujours dans le même milieu, en l'abordant toujours de la même façon, on n'arrive pas à sortir de là. Donc les mêmes personnes que l'on voit, peut-être des fois les rencontrer dans d'autres environnements, d'autres circonstances, ça aide aussi.
Donc quelquefois vous croisez des amis, vous les voyez au travail, vous dites « Oh, mais ils sont horribles !» Alors que dans la vie perso, ils sont très sympas. Donc dites-vous aussi, quand vous croisez des gens très détestables au niveau professionnel, vous dites « Bon allez, rassure-toi, si ça tombe, c'est juste aujourd'hui, si ça tombe, c'est quelqu'un de très sympathique. Essaie de te positionner, de l'imaginer sympa pour te donner l'envie au moins de lui pardonner, d'aller vers lui et d'essayer de le comprendre. » Parce que parfois, les erreurs de communication et d'interprétation, c'est ce qui crée le conflit. Hein. Quand j'interviens en régulation, je peux vous assurer qu'à la base, c'est pour des cacahuètes hein, que ça se transforme en effet boule de neige. Hein, pour des bêtises. Et après, on ne sait même plus pourquoi on en veut à la personne. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on ne veut plus la voir. Mais quand on réfléchit, on ne sait plus pourquoi. Vous voyez, donc ça aussi c'est important. Et puis je crois que ce qui est important aussi, c'est de se dire que la thèse c'est 3 ans, qu'après il n'y a pas forcément de suite et rarement des suites avec le labo, hein, pas toujours, enfin, c'est rare, ça peut arriver, mais voilà. Et que donc vous aussi, vous devez penser à la suite. Donc quelque part, on ne peut pas être aimé de tout le monde. Et puis peut-être qu'il vaut mieux s'assumer et se positionner vraiment, au risque de ne pas être aimé après, mais au moins on est bien avec nous-mêmes. Être en phase avec soi, c'est central. Si on est ce qu'on appelle en dissonance, c'est-à-dire si on fait des choses qui sont pas normales, qu'on n'a pas envie de faire, mais qu'on se force de faire, il y a un moment où on explose. Et je pense qu'après, attention, faut être aussi à l'écoute de ce fameux baromètre, parce que si on commence à pas se sentir bien, il arrive un moment où on est tellement mal qu'on n'arrive même plus à faire l'effort, quoi, parce qu'on n'a plus l'énergie qu'il faut. Donc attention à ça. Et puis je crois que ce qu'il ne faut pas hésiter de faire, parce que moi on m'a dit, oui mais ils peuvent très bien, quand ça ne va pas, faire appel au comité, on se réunit une fois par an. C'est pas si simple. Je pense qu'il faut être capable aussi d'en parler autour de vous, et puis de vous créer vos propres priorités et contraintes. À partir de quand j'estime que ce que je suis en train de vivre n'est pas acceptable? Qu'est-ce que je m'oblige à vouloir? Quand on est ému, c'est que on est déjà en souffrance. Et je pense qu'il ne faut vraiment pas tarder à aller l'exploiter, l'exprimer, parce que ce n'est pas gérable. Hein. Donc je crois qu'il faut vraiment être à l'écoute de ça. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ne se rendent pas forcément compte de l'état dans lequel on peut être. Parfois, on peut faire du mal. D'ailleurs, je suis sûre que vous l'avez déjà vécu. Vous avez pu être désagréable à quelqu'un sans forcément le savoir. Parce qu'on ne peut pas être à la place des gens. On ne peut pas forcément savoir quel impact on peut envoyer quand on a une telle attitude. Donc, c'est important aussi, dans la médiation, dans la résolution de conflits, l'idée, c'est aussi de dire « Je vous en veux pour telle et telle chose, ce n'est pas efficace. » Je pense que ce qu'il faut faire, c'est parler de soi. « Je me sens isolée, je ne me sens pas intégrée. » J'ai le sentiment de parler du « je ». Hein. Parlez pas de l'autre que vous lui reprochez, parlez de votre senti. Ça fonctionne divinement bien. J'ai quelqu'un que j'ai eu dans le cadre du projet, que j'ai eu en entretien, parce que j'essaye d'avoir des entretiens individuels après chacune de mes formations. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Donc, je vois les gens toujours en entretien après les formations. J'ai quelqu'un qui me dit « Oui, j'en ai marre. Quand j'arrive, moi, on ne me dit pas bonjour. » Et puis, les autres, on leur dit « Bonjour. » D'accord. Bon, ça vous pose problème? Oui, ça me pose problème parce que je pense que du coup, je suis pas reconnue. Et vous êtes sûr de ça? Vous pensez qu'ils ne vous disent pas bonjour qu'à vous? Oui. Alors pourquoi dans ces cas-là? Il me dit, maintenant moi je ne dis plus bonjour non plus. J'ai eu le problème, c'est que vous faites du mal à vous, parce que ça ne change rien à leur vie. Hein. Donc vous, vous vous empêchez de dire bonjour, mais eux, ils ne voient même pas que vous vous empêchez d'eux. Hein. Donc quelquefois on enquiquine, mais en fait, on se fait du mal qu'à soi-même. Donc ça peut être intéressant, je lui dis, à partir de maintenant, vous arrivez, vous attendez qu'ils disent, vous dites bien bonjour, très fort, pour bien être sûr qu'ils vous ont entendu. Et s'il n'y a pas de réponse, vous attendez le prochain bonjour de la prochaine qui viendra de l'équipe et qui dira à qui vous direz bonjour. Et puis vous irez voir celui qui vient de dire bonjour et qui ne vous a pas dit bonjour à vous. Et vous lui direz, je ne comprends pas, parce que moi j'ai dit bonjour et tu n'as pas répondu. Et pourtant, elle vient d'arriver, tu lui as répondu. Comment ça se fait? Je me dis, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et pas, oui, pourquoi tu ne me dis pas bonjour? Et donc là, elle lui a répondu, excuse-moi, je ne t'ai pas entendu, ce qui est à mon avis faux, mais ce n'est pas grave. Bon, alors si tu ne m'as pas entendu, à partir de maintenant, demain, quand je te dirai bonjour, je me mettrai bien en face de toi et je verrai si... Voilà. Est-ce que tu peux prêter attention quand je dis bonjour? Parce que peut-être que tu ne m'as pas entendu, mais peut-être que tu ne fais pas attention à mon bonjour avec ma voix. Est-ce que tu peux y prêter attention? Parce que pour moi, c'est très important pour que je passe une bonne journée, pour que je puisse m'investir dans mon travail, de me sentir intégrée. Et le bonjour, pour moi, est essentiel. C'était essentiel hein, pour lui. Alors, il me dit, voilà. Et il m'a envoyé un message il y a 2 jours en me disant, Madame Barry, c'est extraordinaire, ils me disent tous bonjour. Voilà. Alors, attention, ça ne se limite pas juste au bonjour. J'ai fait un résumé. Mais après, il est allé les voir, il est allé parce qu'il y avait un souci quand même sur d'autres choses. Hein. Et il y a la suite qui continue. C'est étape par étape. Au départ, c'est artificiel, je l'entends. C'est-à-dire mince. Mais en même temps, ça fait toujours plaisir à celui qui ne vous dit pas bonjour de savoir que ça vous ennuie qu'il vienne vous voir. Parce que quelque part, il tend la main et il vient voir et il explique en quoi ça lui fait du mal. S'il vient vous voir, c'est qu'il réentre en communication. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut qu'il y en ait un des deux qui fasse l'effort. Et le problème, c'est qu'on a tendance à tous se mettre de son côté en attendant que ce soit l'autre qui fasse le premier pas. Alors, ok, au départ, on peut se dire, mince, il est perdant, c'est lui qui a fait la démarche. Mais au final, vous êtes gagnant. Parce que celui qui est plus gêné, c'est celui qui fait la démarche, souvent. Et ça, c'est efficace pour désamorcer. Après, il faut que ça continue. Mais là, il va plus loin. Il est allé les voir, il a leur expliqué, j'aimerais bien que tu viennes me voir aussi quand tu prends telle et telle initiative pour me demander mon avis, comme ça je me sens plus intégrée. Ils sont en train de le faire. C'est-à-dire qu'ils sont sensibles au fait qu'ils prennent le temps d'aller les voir et de leur dire que c'est important pour eux. Parce que ce qui se passe, c'est qu'ils estimaient qu'il était en gros un but, que c'était lui, moi, je. C'était quelqu'un qui était arrivé dans le labo, qui n'a pas fait son trou, qui l'a fait tout seul. Et du coup, il n'a pas laissé trop le temps des gens de venir vers lui. Il est venu tout direct. C'est sa manière d'être. Quelqu'un qui prend beaucoup de place. Et donc, du coup, il s'est fait exclure. Donc là, il relaisse de la place aux autres. Et petit à petit, ça refonctionne. Voilà. Voilà, ça ne se limite pas qu'au bonjour. Mais c'est tout un travail. Après, je pense que ça, c'est important. Alors, faire appel au comité... C'est pas forcément évident, parce qu'on formalise les choses, on donne une date, on réunit les gens, et moi j'y crois pas. Je pense que c'est comme ce qui se passe dans l'entreprise, hein, les gens souffrent tout seuls. Et je pense qu'il faut arriver à faire appel à l'équipe. Il faut arriver à se prendre la main et se dire, allez, j'y vais là, et je balance tout, j'exprime tout, posément, calmement, en utilisant le jeu, surtout, hein, je me sens comme ça, je ressens ça. Je vous assure, hein, pour le pratiquer en médiation, ça marche du tonnerre. Mais après, il faut avoir envie.
C'est pourquoi vous avez tous une école doctorale avec une directeur de l'école doctorale. Et cette personne, il est votre médiateur entre l'équipe et vous. Si ça ne va pas du tout avec quelques personnes dans votre équipe, c'est aussi un moyen de le faire. Bien sûr, si on peut... comment on dit en français? Je ne sais pas. On passe à une autre étape. Donc d'abord, il faut parler avec l'équipe. Mais si ça ne va pas avec l'équipe, vous avez tous une école doctorale derrière. Donc ça vous assure aussi. Donc s'il y a vraiment un problème, parfois c'est plus facile avec une troisième personne qui est pas impliquée dans le jeu aussi.
Quand ça reste entre équipes et on parle entre deux personnes, ça reste toujours... c'est toujours réparable, facilement réparable. Après, quand on porte le problème à d'autres personnes, on commence à éclabousser un peu l'entourage et... C'est pas forcément agréable pour l'autre personne aussi. Donc ça devient, je dirais, c'est le dernier recours.
Moi, je le vois pas trop comme je viens à ton chef. Je le vois plutôt comme je cherche une autre personne qui est neutre et qui peut nous aider à régler le problème.
Après, je pense que c'est vraiment en fonction des personnalités de chacun. Parce que là, vous parlez, mais c'est quelque chose qui doit rarement vous arriver. Parce que votre positionnement professionnel, votre positionnement, il est clair. Et votre statut, il est clair. Et vos limites, elles sont claires. Je pense que vous savez à quel moment vous manque de respect et à quel moment vous allez agir pour pas que ça se reproduise. Je crois. Donc du coup, les propositions que vous faites, c'est des propositions rationnelles et pragmatiques parce que vous dites, voilà, il y a petit A, petit 2, petit 3. Mais en réalité, quand on est vraiment au fond, on voit plus du tout les mains qu'on tend. Et limite, on devient même, je me tais, je ne dis rien, je ne parle pas et je subis. Et je verrai jusqu'où, jusqu'à quand je tiens. Et puis après, on est dans une autre phase qui est, mais non, il n'y a pas de problème, tout va bien. C'est ce que je dis souvent d'ailleurs quand je vois les gens, c'est que quand je leur dis, à partir du moment où vous êtes conscient que ça ne va pas, vous avez fait un énorme pas. Parce que quand on ne voit pas où est le problème, c'est très grave. C'est une autre phase. Alors, on ne va pas rentrer en thérapie, hein, ce n'est pas le but, puis ce n'est pas mon métier en plus. Hein. Mais voilà, il y a des étapes par lesquelles il faut donc être à l'écoute de soi, anticiper. C'est pour éviter aussi, à un moment, péter les plombs, comme on dit. Et dans le monde du travail, hein, on est de plus en plus centré sur comment être bien au travail, parce que la notion de bien-être est centrale, j'ai envie de dire, parce que vous allez y passer quand même un sacré bout de temps dans votre vie professionnelle. C'est comme un bon matelas, ça vaut la peine pour le temps que vous allez y passer à dormir dessus. Bah, je crois que ça vaut la peine aussi d'investir dans sa carrière professionnelle. Surtout quand on a fait des études, surtout qu'on en a pu avoir le choix, hein. Et je fais une remarque aussi avant d'oublier, je suis absolument outrée d'entendre des doctorants me dire « J'aimerais bien venir à votre formation, mais j'ai pas pu, parce que mon directeur de thèse ne veut pas que je fasse de formation ressources humaines. Il estime que c'est pas la peine, que ça sert à rien, et ce qu'il faut, c'est qu'il fasse plus des formations en lien avec mon domaine scientifique. » Excusez-moi, mais s'il y a bien un truc où vous devez être libre, et ça je le pense vraiment, et moi on me l'a dit clairement, c'est dans vos choix de formation. Mince quand même. Si vous estimez que vous avez envie de travailler sur prendre la parole en public, si vous avez envie de travailler sur votre projet, si vous avez envie de travailler sur vos potentiels, vous vous inscrivez. Je vois pas. Alors, ok, ils doivent signer, mais ça se négocie. Enfin, expliquez-leur. Moi, j'en ai un qui m'a dit, je lui ai montré votre formation, il était mort de rire. Limite, il avait honte pour moi parce que je osais réfléchir à mon projet professionnel. Dites-leur, le bilan de compétences est tout au long de sa vie. Réfléchir à son projet, c'est réfléchir à ses perspectives de plan de carrière et d'évolution. Est-ce que lui, il n'a pas envie à un moment de se poser aussi ? Voilà, ce côté mandarin, justement, je pense à votre place et je sais ce qui est bon pour vous. Non, je suis désolée. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne vous fera pas si vous avez une position professionnelle. Tiens, la question qu'il faut se poser, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Pourquoi il me parle comme ça ? Pourquoi il se permet de choisir à ma place ? Parce qu'il a le droit, il a le sentiment qu'il peut. C'est un peu comme la relation de couple aussi, la relation de parents-enfants. Vous avez des parents qui ne se font pas respecter. Les enfants les adorent, hein, mais ils ont juste cerné les limites, il n'y en a pas. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Et puis, les limites, ça crée aussi le respect et puis l'amour aussi. Donc, je pense que se faire respecter, c'est aussi se respecter. Et ça, c'est quelque chose qui me fait énormément mal parce que du coup, qu'est-ce qui va se passer à la longue ? Là, on est Nathalie Camus et moi, enfin deux, trois, à intervenir sur des formations, plus je dirais en ressources humaines, qui sont selon moi centrales pour l'avenir professionnel de ce que vous allez devenir aussi. Parce que savoir parler, savoir se mettre en avant, savoir convaincre, savoir se positionner professionnellement, c'est essentiel parce que vous avez beau avoir toutes les compétences techniques du monde. Si vous ne savez pas vous mettre en avant et activer des réseaux, ça ne sert à rien et vous n'allez pas exploiter vos compétences. C'est rare les chasseurs de tête qui viennent taper à votre porte en vous suppliant de venir chez eux quand même. Généralement, c'est vous qui venez. Donc, si vous ne faites pas ce genre de formation, si vous ne vous inscrivez pas et si on n'a pas minimum 10 inscrits, ben, on arrête ces formations. Et moi, je vais ailleurs. Ce n'est pas un problème. Hein. Heureusement, je ne me limite pas à ça si je veux continuer à survivre moi aussi. Mais quand j'ai des formations qui s'annulent, faute de place, je me pose forcément la question. Tiens, peut-être que ce n'est pas pertinent. Mais pas « on ne vous a pas autorisé à ». Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas entendre. Donc du coup, voilà. Enfin après, vous décidez de ce que vous voulez, mais est-ce qu'il est normal qu'on vous oblige à ne pas choisir vos formations ? Je comprends pas, vraiment, je comprends pas.
Je pose la question sur les savoir-être. On vous enverra faire certaines formations, on se dit que celui-là, peut-être on l'a mal recruté, ou on va essayer de l'arranger, mais pas avant. En France encore, on recherche souvent les gens sur juste ce qu'ils savent faire dans un métier, d'abord, et ensuite, ces savoir-être, ça vient après, quoi.
Je me permets juste de vous dire que quand vous êtes en recrutement sur un CV à compétences égales, quand on vous reçoit en entretien, c'est les savoir-être. Ce qui va faire qu'on sent la personne avec laquelle on se projette, c'est parce qu'on a décelé des capacités, des valeurs ajoutées, des zones de potentiel. Moi, quand je décide d'un candidat que je vais présenter à l'employeur sur les 250 que j'ai lus, les 5 que je vois en entretien, moi, c'est des questions centrales sur L'Oréal fonctionne comme ça, des grands cabinets fonctionnent comme ça, des entreprises et RH fonctionnent comme ça. Est-ce que je le sens ou je ne le sens pas ? À compétences égales, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on a la possibilité d'avoir à peu près des compétences similaires. Donc, quand on cherche un profil, qu'est-ce qui va faire qu'on va prendre l'un et pas l'autre ? C'est pas sur sa compétence technique à compétences égales. C'est sur ce qu'elle va nous dire. Est-ce qu'elle va nous convaincre ? Comment elle va nous dire les choses ? C'est quoi ses qualités ? Comment elle se projette ? Est-ce qu'elle est capable à manager ? Est-ce qu'elle va être capable de conduire une réunion ? Comment elle va me le prouver qu'elle est capable ? Tout ça, ça se travaille. Est-ce qu'elle est capable de me regarder dans les yeux et de me dire qu'elle sait faire ? Ça se travaille, ça s'apprend. Est-ce que vous êtes capable de vous présenter, de faire des publications ? Ok, mais est-ce que vous êtes capable de prendre le micro et de faire un séminaire ? Est-ce que vous êtes capable de... voyez, tout ça, ça s'apprend. Et ça ne s'apprend pas à la fac, de moins en moins. Enfin, ça commence. Mais vos mandarins ou vos non-mandarins, parce qu'ils ne sont pas tous, hein, sincèrement, il faut qu'ils prennent conscience de ça et que vous ne leur appartenez pas et qu'après la thèse, vous avez quand même un réseau à activer et une suite de vie aussi professionnelle. Donc ça, ça, pour moi, c'est au contraire notre gros problème en France, c'est de ne pas assez travailler les savoir-être, les zones de potentiel et le projet. Parce que quand je vous parle du bilan et du projet, on parle du projet professionnel. Là, on ne parle pas juste de nos traits de caractère. C'est qu'est-ce qu'on veut, quels sont nos ciblages, quels sont nos environnements de travail.